Odibre lève les deux aveugles. Le vieux se tenait sur le pas de sa porte, à l'ombre que la maison opposait comme une saillie d'eau fraîche aux ardeurs du soleil de juillet. Il n'était plus bon qu'à être assis à l'ombre, l'été, au coin du foyer. L'hiver, sa vue s'étant complètement obscurcie avec la soixantaine. Il ne s'en consolait pas, bien que son fils, un rude gars, fût en âge de faire aller à la ferme, et des déconseils du père aveugle le remplaçait aujourd'hui, en somme, sans trop grand dommage. Mais la mère Moreau ne cessait de grommeler. Elle en voulait à tous et à toutes la malédiction tombée sur les paupières de son mari. Sa besogne à elle en était plus double que doublée, en effet, car le vieux, chacun le sait, avait autrefois l'œil partout. Heureusement, le soir venu, Eugène, le fils, apaisait sa famille quand il revenait des champs. Gaillard sentait bon la tête retournée, la feuille humide, le refrain ou l'odeur poussiéreuse des grains. Au dernier l'heure du crépuscule, comme il avait la vue bonne, lui, et pour économiser la chandelle, il lisait à son vieux le journal. Et en cette fin de juillet, tout à coup, la lecture du journal au crépuscule cessa d'être une cause de délassement. Eugène lisait, lisait, sur un ton monotone, sans comprendre grand-chose à la politique extérieure, lorsque le vieux prononça en branlant la tête: « Venez voir qu'ils vont nous jouer le même tour qu'en 70, ces salauds-là. Oh, je m'en souviens, fier bien. » Et il se vit conduire par ce fils chez le notaire, puis composa un paquet qu'il enferma dans une vieille boîte à biscuits, et à l'aide de son fils et de sa femme, seul témoin, les déposa dans une cachette. Deux jours après, Eugène rejoignit son dépôt. Le père et la mère Moreau restèrent mornes. Qu'est-ce qu'il fera à la vendange? Et puis Eugène, qu'allait-il advenir de lui? La même question se posa tous les jours pendant cet éternel mois d'août et pendant ce mois de septembre, si effroyable au début, si plein d'espérance à la fin. C'était la mère à présent qui lisait à la lumière, et très difficilement, et elle n'était pas savante, et puis elle était harassée par l'ouvrage. Eugène avait fait des marches précipitées de 60 kilomètres par jour. Le pauvre fieux, tout de même, il avait assisté à une fameuse affaire, celle de la Marne, et puis après, c'était les batailles terribles tous les jours et qui n'en finissaient pas. Puis on resta quelque temps sans savoir ce que devenait Eugène. Puis il écrivit, ou plutôt, il fit écrire par son infirmière qu'il était dans un hôpital à Béziers, qu'on le soignait très bien et que sa santé se maintenait. « Bon, il a le bras droit ou la main emportée, » dit le père. « Je vois ça d'ici. » J'en ai vu d'autres du temps de la guerre, autrement, il écrirait lui-même. Tu sais bien que tu ne vois rien, disait la mère, l'estomac tordu par l'angoisse. Il a une bonne santé, il en réchappera. Avec un seul bras pour remuer la terre et tailler les jeunes plants, il en réchappera, joli garçon. On fit écrire au soldat blessé pour avoir des renseignements plus précis. Ce fut encore l'infirmière qui répondit en répétant que l'état général de Moreau était excellent et que sa blessure était insignifiante. « Et c'est pour une blessure insignifiante qu'on l'a envoyé à Béziers ?» disait le vieil aveugle. « Béziers, mais c'est tout ce que c'est. J'ai fait venir des pastins, des plants de vigne du midi. » La grande année du phylloxéra, c'est comme ça que je sais où ça se trouve. on recevait aussi de l'hôpital régulièrement des cartes postales officielles avec les signatures et timbres du médecin-chef, portant toujours état satisfaisant. Drôle d'état satisfaisant, répétait le père, qui nous privait un homme de l'usage d'écrire. Il est coquet, disait la mère. Peut-être bien que ça m'attrempe tant soit peu. Il n'y avait pas pareil à lui pour une belle écriture. Une bonne nouvelle arriva après des mois. Eugène était décoré de la médaille militaire. La médaille militaire, c'est pas une plaisanterie. Ça tombe pas du ciel comme la grêle. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour décrocher ça? Et dire qu'il ne s'en vantait point. Un beau jour du mois d'avril, en plein midi, tandis que la mère Moreau était en train de biner elle-même dans son champ, en haut de la côte, un grand gars parut sur la route, conduit à la main par un gamin du village. Les chiens aboyaient, le temps était superbe, les cerisiers, les amandiers en fleurs, ils sortaient de toute la terre, sous le ciel tranquille, un parfum de jeunesse, un air de bonheur. « Bon, fille !» s'écria la mère Moreau. Le fils se retourna de côté d'où venait la voix. C'était lui, et ce n'était pas lui. Il ne lâchait pas la main du petit qui le conduisait. Il avait un bâton de l'autre main. Il était affublé de vêtements bourgeois un peu étriqués. Il portait la médaille au ruban jaune sur le revers du veston. Mais comment n'entendait-il pas le fossé? Comment ne s'écriait-il pas « Maman, c'est moi !» Ce fut elle qui courut, elle qui enjamba le fossé. Et dans le temps d'un éclair, elle comprit tout. Mais en paysanne, dure au mal, elle ne broncha pas, ne proféra pas une plainte, elle ne dit même pas un mot. Elle congédia le gamin qui avait amené son fieu. Elle prit celui-ci par la main, et eut le courage de lui parler seulement des semailles qui avaient été faites si maladroitement que le blé noir et l'avoine levèrent par piquet des touffes d'herbe dans un champ nu. Elle lui expliquait, lui décrivait les choses de la culture, comme si de tout temps elle savait qu'il ne pouvait rien découvrir par lui-même. Et en parlant, elle pensait... C'est le papa, qu'est-ce qu'il va dire le papa? Elle arriva avec le malheureux mutilé jusqu'à la ferme, et à l'idée de présenter son fils aveugle au vieux père, aveugle, ses forces la trahirent. Elle n'ignorait pas que le vieux, bien que privé de lumière, se rendait compte de tout, et que l'état de son garçon, quoi qu'on en fît, ne lui échapperait pas. Elle dit à Eugène, « Il est là, assis devant la porte. T'as qu'à marcher tout droit et étendre la main, tu toucheras la sienne. » Et elle s'enfuit vers l'étable en criant au vieux, « Crois-tu cette chance, la note gore avec sa médaille ?» Le vieux dressa sa tête levée, lente, fermé au jour, sa bouche, pareil à un cuir fendu, mais desséché, qu'une eau soudaine l'amollit, s'entr'ouvrit pour donner passage à un bégaiement. Pendant ce temps, Eugène, mal éduqué encore, au lieu d'avancer droit à son père, allait s'aplatir contre le mur. Il se fit mal, fut vexé et jura. « Qu'est-ce que tu fais donc ?» dit le père. « Tu vois donc point ?» Eugène se retourna vers l'endroit d'où venait la voix de son père. Mais il le manqua encore et en passa tout à côté de lui. Le vieil aveugle, dont les sens étaient très habiles, et à qui presque rien ne pouvait être dissimulé, le rattrapa. Il lui palpa rapidement les quatre membres et dit « C'est les yeux qui t'ont tué, mon pauvre fils. Oh, malheur de malheur. Eugène ne répondit pas. Et entre les paupières aux trois quarts baissées du soleil vieil aveugle, les larmes coulèrent tout à coup. La mère Moreux, près de l'étable, portait, comme du fait d'un homme, une lourde botte de foin piquée aux cornes d'une fourche. La fille de ferme, témoin de la scène, lui désigna les deux hommes. L'eau manquait, le père et le fils, ne pas arriver à se toucher la main. Le monde est damné, voilà la preuve.